nous sommes sur Allegre FM 93.1 dans La vie est un roman. Et donc nous allons commencer l'émission par une intervention de Véronique Servat qui vient de sortir un livre qui s'appelle Bazar Pop aux éditions du Détour. Bonjour Véronique, vous êtes là ?
Oui, je suis là, bonjour.
Bonjour. Alors, votre livre parle des objets dans la musique populaire, dans l'histoire. Oui. C'est une histoire des musiques populaires par les objets, c'est ça ?
C'est le propos, oui, on peut dire ça.
Et donc, quels sont ces objets ? Quel était le but du livre ?
Alors, les objets, en fait, ils sont au nombre d'un peu plus d'une vingtaine. Évidemment, il y a des objets que tout le monde s'attend à trouver, comme la guitare, par exemple. Et puis, des objets que j'ai regroupés par, en général, 2-3 exemplaires. Donc, autour de la guitare, par exemple, il y a les lunettes noires et la seringue.
Oui.
De façon à pouvoir entrer dans des sujets thématiques structurants important de l'histoire des musiques populaires. Donc les trois que je viens de vous citer, par exemple, ils servent essentiellement à aborder la question des mythologies du rock, ou des musiques populaires plus largement. Mais à côté de ça, ben, on va trouver le Walkman, la cassette, le fanzine, le ballon de foot, des objets qui ont à voir avec cette histoire, de façon parfois évidemment centrale, parfois plus périphérique, et qui permettent d'aborder une histoire parfois sociale, celle des jeunes par exemple, parfois une histoire plus esthétique avec les vêtements.
Oui, mais vous regrettez de ne pas avoir pu parler des badges, par exemple, moi qui ai utilisé une machine à badges pour faire de l'animation dans les expos. Quand on aimait le rock, on aimait beaucoup les badges. Quand on était fan, on portait des badges de couleur avec...
J'en ai moi-même une collection assez importante, je le confesse.
Voilà. Les lunettes...
De fait,
oui.
Excusez-moi, juste vous explique, c'est que mon livre n'est pas une encyclopédie.
Donc, d'accord.
Véritablement, c'était l'idée de pouvoir accrocher à des objets, encore une fois, des thématiques de l'histoire des musiques populaires, les supports d'enregistrement, les pratiques culturelles, les comportements de certains groupes sociaux, des évolutions esthétiques. Et c'est vrai que, bon, de toute façon, il fallait faire un choix. Il y a des objets que je n'ai pas mis. Je regrette de ne pas les avoir mis. Je ferai peut-être un tome 2, qui sait.
Et donc, il y a le magazine de presse musicale, par exemple, qui était culte. C'était quelque chose de très, très important.
Ben, disons que c'est vraiment un des objets qui a accompagné le développement des musiques populaires. Et qui, pour le coup, les a popularisés, au sens où les a fait connaître en tant que médiation. Voilà. Moi, j'ai fait ma thèse sur les arts occultibles, magazine que vous connaissez sans doute. Voilà. Donc, étrangement, c'est un des objets qui m'a demandé le plus de travail à mettre en forme dans le livre. Mais effectivement, je pense que pour les fans de musique populaire, des musiques rock, on va dire, c'est vraiment un objet essentiel, celui qui va contenir des posters qu'on va mettre au mur, c'est un bon complément aux bâches.
Mais il y a le...
aussi.
Chez Alia, il y a cette publication, bon, il y avait Tristram aussi, il y a toute cette publication des écrivains américains autour du rock qui ont élevé le genre au génie absolu.
Absolument.
Et donc on avait quand même quelque chose qui s'est passé là qui était très important.
Alors effectivement...
Lester Banks par exemple. Lester Banks c'est aussi bien que n'importe quel grand écrivain. Si pas mieux par moment.
Effectivement, la spécificité du journalisme de presse musicale, c'est qu'en fait c'est pas un métier au départ. Hein.
Oui.
Si vous lisez le très beau travail qu'a fait Maud Bertonnier là-dessus... Et
oui, je l'ai lu, je l'ai reçu ici.
Voilà.
Oui.
C'est plutôt, en fait, des gens qui font partager, via leur talent d'écrivain, leur passion musicale. Et c'est vrai que des gens comme Lester Banks, évidemment, ont forgé une image de la presse musicale qui a quand même aussi évolué au fil du temps vers d'autres styles. Si on lit, par exemple, Yves Adrien dans Rock and Folk, avec oui, son sûr. Côté beaucoup plus... Voilà, c'est un style encore autre. Et moi, je peux vous affirmer qu'aux Arts Occuptibles, c'est encore tout autre chose, l'écriture musicale, notamment par le biais des interviews. C'est une posture qui est très, très particulière. Et puis, ce qui est beau aussi dans le magazine de presse musicale, c'est la culture visuelle.
Oui.
Qui arrive à travers la photographie, la mise en page, les maquettes. Il y a une grande variété d'approches et c'est vraiment très riche.
C'est dommage qu'on ne puisse pas se voir en vrai, vous n'y ayez pas pu venir. La semaine passée, on a reçu Chloé Mons, ici, donc la veuve de Bachung. Et brusquement, oui. Je pense à Bayon. Et donc, parce que c'est oui. Bayon qui l'a fâché avec Bergman. Donc on a un petit côté shakespearien. Là.
J'évoque Alain Bachung dans la partie sur les lunettes noires.
Bien sûr.
Ouais. Voilà, parce qu'une de ses dernières apparitions qui était saisissante aux Victoires de la musique, ses lunettes noires cachaient ses yeux, cachaient son émotion. Et c'était un moment qui était assez suspendu, assez étrange, où on sentait que le public avait envie de le gratifier. En même temps, on n'était pas très à l'aise avec son état de santé. Et ses lunettes noires ont fait une sorte d'interface, une sorte de protection. Et ça a donné quelque chose à ce moment d'assez beau, en fait.
Oui. J'habitais dans un quartier, à un moment donné, où il y avait Patrick Eudeline, que je voyais tous les jours au bistrot. Il avait des lunettes noires. Ça me fait penser dans les critiques de rock connues.
C'est un attribut aussi dont se part Philippe Manœuvre. Puis c'est un attribut de toute façon qui est lié à toutes les mythologies du rock, à la consommation de la drogue,
absolument.
À la vie nocturne, au côté Star System qui emprunte évidemment au code hollywoodien du cinéma. Donc c'est un objet intéressant, les lunettes noires.
Et donc là, je vois dans l'article poster, ça finit par les derniers mots, c'est une pensée pour Pierre Bourdieu.
Oui, parce que... Moi, je me souviens quand j'étais adolescente, j'allais dans les concerts et c'est vrai que à la sortie des concerts, on trouvait toujours des vendeurs un petit peu à la sauvette qui vendaient des affiches de concerts à des prix très modestes, un petit peu imprimés à la va-vite, voilà. Et en fait, je continue encore aujourd'hui à aller dans les concerts et ça fait plusieurs fois que je m'aperçois de ça. Les stands de merchandising proposent à des prix souvent assez importants, on va dire plus d'une trentaine d'euros, des affiches qui sont numérotées.
Ah oui.
Et en fait, ce sont des tirages numérotés avec un numéro de série. Et au prix où sont les entrées de concert aujourd'hui, on voit bien qu'il y a quand même un prix social qui s'effectue, un prix économique hein, qui s'effectue sur le public. Et effectivement, dans le cas du merchandising, les gens qui peuvent déjà payer 80 euros une place de concert et ensuite repayer 35 ou 40 euros une affiche numérotée, c'est pas forcément le tout venant, quoi.
Ouais, c'est vachement bien. On va devoir se quitter.
Voilà.
C'est dommage, mais
c'est un des enjeux des évolutions de musique populaire actuelle avec ce qu'on a appelé la crise du disque. Hein. Et
ouais.
Voilà, les profits, ce sont... L'industrie musicale se refait sur l'industrie du spectacle, en fait.
Merci. On va continuer à parler d'art et d'argent après. Écoutez, merci de nous avoir répondu. Et donc, c'était
merci
Véronique Serva pour Bazar Pop, des objets pour une histoire des musiques populaires, aux éditions
merci
du Détour.
Beaucoup.
Merci bien.
Exact.
Au revoir.
Merci. Au revoir.
Et donc maintenant, nous allons passer à une autre autrice dans la même maison d'édition, les éditions du Détour, sur un sujet qui est plus que jamais d'actualité. Est-ce que nous avons Stéphanie en ligne ? Donc c'est un livre de Stéphanie Lamy, La terreur masculiniste. Donc vous voyez tout de suite pourquoi c'est d'actualité, j'imagine. Vous comprenez à quoi je fais allusion, la chose dont tout le monde parle depuis des jours entiers, là, disons depuis une semaine. Et donc nous attendons d'avoir Stéphanie Lamy au téléphone. Et nous y allons. Vous êtes là, Stéphanie ?
Oui, je suis là.
Bonjour. Donc, avec la victoire du nouveau président des États-Unis, votre livre est plus que jamais d'actualité, ou bien ?
Oui, quand même. En fait, dans l'introduction, je parle de comment, en fait, certains milieux masculinistes sont des viviers, en fait, de voix mobilisables pour un projet plutôt réactionnaire politique.
Ben c'est réussi, là. Donc, vraiment, on peut dire que ça a marché.
Oui, c'est évidemment pas le seul facteur, mais c'est un des facteurs qui a évidemment contribué au succès de Donald Trump, malheureusement. Mais on est sur un vivier de voix mobilisables.
Est-ce que vous voulez expliquer les grandes lignes de votre livre, le sujet là, et votre approche ?
Oui, alors, en gros, le livre, à la base, c'était une écriture qui vient compléter 10 ans d'observation de terrain. Donc, je me suis intéressée au sujet des masculinismes, au pluriel, à partir de 2014, lorsque je militais, en fait, pour les pensions alimentaires impayées, donc contre les pensions alimentaires impayées, plutôt. Et je me suis rendu compte que notre petit collectif de mamans séparées rencontrait vraiment des résistances très fortes, y compris des violences, lorsqu'on prenait la parole là-dessus. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à essayer de comprendre pourquoi autant de violences de la part de ces hommes. Et je me suis immersée dans leur milieu que j'appelle les milieux de radicalisation, puisque ce sont véritablement des lieux où des idéologies sont formulées, travaillées, débattues, des rites sont déroulés pour créer la solidarité ou renforcer la solidarité masculine et surtout où les violences sont non seulement admises, mais les violences à l'égard des femmes et des minorités sexuelles sont admises, mais plutôt favorisées et encouragées.
Je vois à la page 124 de votre livre un tableau qui s'appelle MGTOW. De quoi s'agit-il ?
Alors, en fait, j'ai voulu inclure un petit peu la documentation de ces milieux-là, parce que dans les médias aujourd'hui, on les représente plutôt comme des rigolos, en fait, des figures poussoires. Ce sont en fait des hommes qui travaillent plusieurs heures par jour à réfléchir à leur idéologie. Et ce tableau-là représente un peu comment les MGTOW, donc c'est une sous-catégorie de masculinisme, une idéologie masculiniste qui prône le séparatisme masculin, les Men Going Their Own Way, c'est ça l'acronyme, MGTOW, comment ils conçoivent le monde et comment ils conçoivent leur position par rapport aux femmes. Donc il y a différents niveaux de renoncement aux relations avec les femmes. Ça va des débutants qui vont continuer à relationner avec les femmes, mais pour les exploiter sexuellement et économiquement, jusqu'à ceux qui pratiquent réellement l'idéologie, qui deviennent quelque part des moines. Le souci, c'est qu'ils ne se séparent jamais réellement du sujet des femmes et des minorités sexuelles, puisque tous leurs vidéos portent là-dessus. Et vraiment, leurs vidéos souvent sont empreintes de haine vis-à-vis des femmes et ce qu'eux, ils considèrent être une société féminisée.
Et donc, est-ce que l'avenir est plutôt de leur côté ? Alors, comme on a été très surpris par la victoire de Trump, on est confronté à quelque chose qui est comme une montée en force d'une pensée extrêmement régressive, comme ça. Comment vous voyez ce qui va venir, vous qui êtes une spécialiste du problème ?
Alors, je ne suis pas aussi absolutiste dans les prédictions. Alors oui, il va y avoir, je pense, plus de violences liées au suprémacisme masculin, ça c'est sûr. En revanche, je vois aussi que la jeune génération, bien qu'elle soit scindée en deux entre les jeunes hommes qui deviennent de plus en plus réactionnaires et les jeunes femmes de plus en plus progressistes, moi, je crois réellement qu'il va y avoir une prise de conscience et que ce n'est qu'une phase, quelque part.
Mais la prise de conscience par qui ? Par les hommes ?
Alors, bah, j'espère par la société de la dangerosité, en fait, de ces discours. Jusqu'à présent, ça n'a pas été travaillé très peu, hors des milieux féministes. On commence à parler des masculinismes dans les médias mainstream, mal, mais ça commence. Ils sont cités dans des rapports institutionnels, donc on commence à avoir une prise de conscience. Et j'espère que c'est surtout à cette échelle-là que des fonds seront attribués pour lutter contre ce type de radicalisation.
Mais vous qui connaissez le problème, si on prend par exemple la prise de pouvoir par Mussolini au mi-temps des années 20, disons en 1924, oui. Ça commence par des supporters sportifs, ça commence par des engagements corporels. Par exemple, le fascisme italien est très sur le corps. On va avoir tout un art qui va se développer, comme ça, une vision de l'Antiquité qu'on va retrouver d'ailleurs chez les nazis, qui sera très, très corporelle, qui sera vraiment dans un investissement masculin intense. Est-ce que, dès maintenant, est-ce qu'on ne doit pas commencer à trouver des armes, à les cacher ? Est-ce qu'on ne va pas devoir se battre ? Est-ce que cette terreur masculiniste ne va pas tout ? Est-ce que les femmes ne vont pas se faire frapper à l'entrée des grandes surfaces ? Je ne sais pas, moi. Qu'est-ce qui va se passer ?
Les attentats masculinistes ont déjà lieu. Donc ça, c'est quelque chose, je pense qu'il faut le comprendre. Par exemple, dernièrement, une soirée d'Halloween a été fêtée en non-mixité, donc il n'y avait que des femmes. Elles ont été prises pour cible avec des tirs de mortier d'artifice parce que les quatre hommes savaient que c'était une soirée en non-mixité, ont quand même tenté de rentrer, se sont vus refoulés puisque c'est une soirée en non-mixité. Et en revanche, pour se venger, on tirait directement sur un groupe de 80 femmes qui étaient à l'extérieur de la soirée. Donc des attentats masculinistes existent déjà. Donc j'espère qu'il y aura une plus de conscience.
C'était très présent dès le début du Front de Libération des Femmes dans les années 70 déjà, quand elles faisaient des réunions non mixtes. C'était violemment critiqué comme un séparatisme. Enfin, c'est le monte à l'envers, toujours. C'est les minorités qui ont tort. Enfin, c'est pas du tout une minorité dans le cas des femmes, en plus. Mais c'est toujours, ça a toujours été très, très critiqué, cette séparation.
Oui, c'est vrai que l'accès aux espaces, c'est une rengaine de longue date. Maintenant, la différence entre les années 20 et aujourd'hui, puisque vous avez mobilisé cet exemple-là, c'est qu'on a quand même eu une progression dans les droits des femmes assez forte depuis. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est différentes façons violentes de vouloir faire reculer ces droits-là.
Oui. Bon, ben, on va devoir se quitter. Est-ce que vous voulez conclure, dites-nous ce qu'on a... Faites-moi un petit résumé rapide de votre livre. Qu'est-ce qu'il faut qu'on en retienne ? Si on s'intéresse à la terreur masculiniste, vous appelez Stéphanie Lamy et le livre est publié aux éditions du Détour. Faites-moi un petit résumé rapide.
Alors, à titre individuel pour vos auditeurs, toujours garder en tête la perspective des femmes et des minorités sexuelles quand vous pensez les politiques publiques et l'action militante. À partir du moment où vous effacez cette perspective-là, vous êtes beaucoup plus susceptible à entendre les discours masculinistes.
D'accord, merci.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Et donc maintenant, nous allons parler avec un invité qui est avec nous, en vrai, dans le bureau, qui s'appelle Patrice Trigano, qui vient de publier un livre qui s'appelle « La promesse de l'art, mémoire d'un galériste ». Et c'est un monsieur qui avait une galerie tout au long des années 70 à la rue du Renard, donc en face du centre Pompidou, pendant que le centre Pompidou se construisait et allait vers son inauguration. Et ensuite, qui a eu une galerie, enfin je résume violemment, qui a eu une galerie à la rue des Beaux-Arts, qui a pratiqué tous les métiers qui se pratiquent là-dedans, et qui, par avance dans son livre, dénonce ce qu'on pourrait dire de lui pour résumer le livre. Je dirais qu'il y a une abondance, un flot très, un flux très important de noms propres. Il y a un index à la fin, parce que le livre est très bien fait, il est publié aux éditions du Canoë. Et il y a 458 noms propres à vue de nez dans l'index. Et ce qu'on peut lui reprocher, c'est l'éclectisme dans ses choix. Et effectivement, il a beau protester, c'est difficile de ne pas lui reprocher. Mais je vais lui laisser la parole pour qu'il nous présente son livre. Bonjour, monsieur Patrice Trigano. Bonjour. De quoi parle-t-on dans La promesse de l'art ?
Ce livre, c'est finalement une mission que je me suis assignée. J'ai eu la chance d'accompagner la carrière de nombreux artistes. J'ai, dans mon parcours de galeriste, mis sur pied plus de 300 expositions, soit à la galerie, soit dans des foires en France ou internationales auxquelles j'ai participé. Et j'ai eu finalement un privilège tout à fait exceptionnel, celui de fréquenter des hommes, des individus, des hommes, des femmes, des individus tout à fait hors du commun que sont les artistes. Et je suis détenteur d'un certain nombre de souvenirs, et ces souvenirs, je ne voulais pas les laisser partir. Il me semblait qu'il était nécessaire de leur donner une seconde vie à travers l'existence d'un livre, et c'est la raison pour laquelle j'ai écrit La promesse de l'art.
On peut dire que vous avez exposé à peu près tout ce qui compte pendant les années 70, 80, 90, etc. Et pour essayer de donc les gens que ça intéresse, qui pensent à n'importe quel mouvement, je ne sais pas, par exemple, s'ils pensent à Daniel Buren, il y aura une exposition de Daniel Buren, mais s'ils pensent aussi aux survivants surréalistes, il y aura une exposition sur les survivants surréalistes. Il y aura, enfin, il y a pratiquement tous les artistes vont être représentés à un moment ou à un autre. Il y a toute la fin, enfin, toute la survie de l'abstraction lyrique, par exemple, qui était très à la mode dans les années 50, donc bien avant, qui va disparaître quand Rauschenberg va toucher un prix à la Biennale de Venise et que les Américains vont prendre la place, vont tuer le marché français de l'art dans ce genre de discipline. Mais on aura une succession d'avant-garde. On aura par exemple les lettristes, et vous allez finir par arriver à faire une exposition d'Izou, ce qui n'était pas évident parce que le personnage n'était pas facile. Vous exposez aussi, par exemple, un dadaïste exilé en France, à Limoges, juste après sa mort, Raoul Haussmann. Mais vous exposez aussi, par exemple, Malaval. Moi, je viens à Paris, je veux aller voir Robert Malaval. Et on me dit qu'il vient de se suicider. Il y a la ville de Paris qui expose les toiles qu'elle a achetées au Palais de Tokyo. Il y a Malaval, qui est absolument génial, qui ressemble à la vague d'Okusai, avec son système d'aspirateur inversé, là, avec sa projection de paillettes. Et on me dit qu'il est mort à cause d'Alain Avila, qui l'a ridiculisé en lui faisant faire une performance en direct à Sèvres. Sèvres, préfecture, oui, c'est ça. Qui était à l'époque directeur d'un centre culturel là-bas et que Malaval a souffert. Mais en lisant votre livre, je m'aperçois qu'il avait déjà fait plusieurs tentatives de suicide et que c'était dans son style. Vous allez fréquenter un junkie comme Pomerol, par exemple, qui habite à Ivry. À un moment donné, je fréquentais un peintre dans le même bâtiment. Enfin, vous verrez à peu près tout le monde. Alors peut-être que pour arriver à vous cerner, on pourrait parler de... Ah oui, vous allez avoir une collection. Peut-être qu'on peut aussi, on peut aborder cet aspect-là. Vous avez une activité de collectionneur à tout un petit peu compulsif, comme sont les collectionneurs. Vous montez toute une collection et à un moment donné, vous vendez toute votre collection pour repartir à zéro.
Oui, alors effectivement, d'abord, vous avez dit beaucoup de choses.
Trop, mais...
Pas du tout. Vous avez parlé d'un certain éclectisme. En réalité, là, je voudrais me défendre sur ce point, si vous permettez. J'ai toujours considéré le métier de galeriste comme une occasion, une opportunité de s'exprimer artistiquement à travers ses choix. Un petit peu comme, finalement, si éprouvant le besoin de s'exprimer, on s'exprimait à travers le regard des artistes que l'on aime, un petit peu par procuration, d'une certaine façon, au second degré. Et il se trouve que j'aime des aspects de l'art assez différents. Donc là où certains m'ont accusé d'opportunisme, je dirais non, je n'ai jamais été un opportuniste, je suis un passionné et j'ai voulu, à travers ma galerie, exprimer les différentes facettes de ce que j'ai aimé, de ce que j'aime toujours. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai exposé l'abstraction d'après-guerre, le surréalisme, le dadaïsme.
Les avant-gardes contemporaines.
Voilà, les avant-gardes
contemporaines. On pourrait peut-être dire que vous avez renoncé à une carrière purement commerciale. Vous avez, comme vous parlez vous-même d'atavisme, quand vous montez une boîte pour vendre des livres d'art d'occasion, ça marche. Après, vous faites un magasin de gadgets où il y aura le Café Coste après, et ça marche. Et donc, vous n'en faites pas qu'un. Vous en faites 8. Et donc, vous devez lutter aussi contre cette capacité que vous avez à être commercial.
Effectivement, je suis probablement poursuivi par une sorte d'atavisme familial dans le monde des affaires, mais d'une certaine façon, j'ai très tôt tourné le dos à ma famille, non pas en me fâchant avec ma famille que je respecte et que j'aime beaucoup, mais en prenant d'autres voies. Finalement, ma famille a été très, très investie dans le domaine du soleil, finalement, dans l'industrie du soleil.
Le club méditerranéen que tout
voilà,
le monde connaît.
Et moi, j'ai trouvé un autre moyen de rencontrer le soleil à travers l'art.
Et donc, oui, on peut prendre... Donc, il y a l'art... Les 450 premières pages du livre sont consacrées à votre activité de commissaire d'exposition, comme on dit aujourd'hui, de curator. Et mais on peut aborder, pour faire votre portrait, la collection de vos rêves. Oui, alors est-ce qu'on peut parler de cette collection que vous aviez, ce qu'il y avait dedans, et puis alors, la rupture, et puis là, il y a aussi la maison que vous faites construire, c'est formidable.
Alors,
aussi,
mais... effectivement, j'ai toujours considéré que la collection d'art est une collection pas du tout comme les autres. En réalité, je suis tenté de dire, lorsque je vais chez quelqu'un pour voir des tableaux, « Montre-moi ta collection, je te dirai qui tu es. » Au même titre que lorsqu'on porte le regard sur une bibliothèque, quand on va chez quelqu'un, en l'espace de très peu de temps, quelques coups d'œil, on peut savoir à qui on a affaire. Ce n'est pas la même chose d'aimer Georges Bataille et d'aimer Guy Descartes, par exemple. Bon, j'ai beaucoup de respect pour Guy Descartes, mais ce n'est pas du tout le même niveau, ce n'est pas la même chose. Alors, une collection, finalement, devrait être un moyen de pouvoir s'exprimer à travers son choix. Et donc, j'ai toujours considéré qu'il était très important d'avoir parallèlement à mes activités de galeriste une activité de collectionneur pour nourrir finalement une volonté de m'exprimer à travers mes choix.
Bon, nous allons faire une petite pause. Nous sommes sur Allegre FM 93.1 dans La vie est un roman. Nous faisons une petite pause musicale.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
Don't let him steal your heart away. I'm gonna learn to dance if you take me all night and day. Climb into my machine so we can cruise on out. I know a swinging little joint where we can jump and shout. It's not too far back off the highway, not so long a ride. You park your car out in the open, you can walk inside. A little cutie takes your hat and you can thank a ma'am. Every time you make the scene, you find the joint is jammed. Thank you.
play. I'm gonna learn to dance if it takes me all night and day.
Bonjour, donc nous sommes dans La vie est un roman sur Allegre FM 93.1. Je parle avec Patrice Trigano de La promesse de l'art qui a été publiée aux éditions Canoë. Et donc vous êtes plutôt Picasso que Matisse là dans votre musée imaginaire. Vous êtes plutôt dans les contenus. Vous décrivez votre collection idéale.
Alors, effectivement, vous savez, André Malraux avait eu une très très belle idée, l'idée du musée imaginaire. Il avait regroupé intellectuellement, par l'imagination finalement, il avait créé un musée dans lequel se seraient trouvées toutes les œuvres qu'il aimait. Et à un moment donné, la Fondation MAG a eu l'idée de proposer à André Malraux, évidemment de son vivant, de donner une dimension réelle à ce musée imaginaire. J'avais eu la chance de voir cette exposition, qui était tout à fait extraordinaire. Et alors, à mon petit niveau, ça m'a donné l'idée, au moment où j'ai écrit « La promesse de l'art », de consacrer un chapitre à ce que serait mon propre musée imaginaire. Et alors, j'ai regroupé, intellectuellement, finalement, par l'imagination, des œuvres issues de différents musées. Je les ai fait vivre ensemble à l'intérieur d'un chapitre qui s'appelle « Mon musée imaginaire ».
Et donc, il y a Altorfer, par exemple, dedans ?
Oui, la bataille d'Alexandre de Altorfer, que j'ai vue à la Pinakothèque de Munich, qui effectivement est un très très grand tableau.
Moi, quand je l'ai vu, j'étais jeune, je suis allé spécialement pour ça, pour le voir, et j'ai été très déçu parce qu'il y avait une vitre sur la toile. Je ne sais pas, quand vous l'avez vu, il y avait encore la vitre.
Non, il n'y avait pas la vitre.
Alors moi, il y avait la vitre, c'était très très décevant. Parce qu'on se voyait nous-mêmes dans la vitre.
Ah oui.
Et donc oui, pour revenir en arrière, je pense brusquement à ça, vous avez possédé un Warhol que vous aviez acheté relativement au bon marché,
oui,
et que vous avez revendu pour une somme énorme.
C'est une histoire assez singulière. Lorsque j'étais jeune homme, j'avais débuté dans le domaine de l'art tout en faisant mes études, en étant clerc stagiaire à l'étude de maître Maurice Reims, qui à l'époque était le plus grand commissaire-priseur français, et qui était écrivain, qui est devenu membre de l'Académie française. C'est un homme pour qui j'avais beaucoup, beaucoup d'admiration. Et connaissant ma passion pour l'art contemporain, il m'avait proposé d'organiser pour lui des ventes d'art contemporain. Je dois dire que j'ai, avec Jean-Claude Binoche, qui à l'époque, effectivement, venait d'ouvrir une étude de commissaire-priseur, nous avons organisé les premières ventes d'art contemporain à travers le monde. Ça n'existait absolument pas. Et nous avons ouvert ce marché qui aujourd'hui est devenu le marché le plus important dans le domaine du marché de l'art. Et j'avais rapporté des États-Unis un tableau de Andy Warhol, le portrait de Liz Taylor sur fond bleu, donc dénommé Blue Liz. Et j'adorais absolument ce tableau. Et ce tableau n'avait pas été vendu à l'occasion de la vente, il n'avait pas trouvé preneur. Alors j'avais proposé à mon père de faire l'acquisition de ce tableau, mais mon cher papa n'était pas du tout motivé par la peinture. Alors j'avais fini par aller frapper à la porte d'un organisme de crédit et je m'étais endetté pendant 7 ans, si je me souviens bien, pour payer ce tableau avec beaucoup de difficultés, avec le petit salaire que j'avais à l'époque en travaillant chez Maurice Reims. Maître Reims, donc. Et j'avais fini par payer ce tableau dont j'étais très fier. Et puis, naturellement, à partir du moment où je l'ai acquis, étant donné que c'était une icône de l'art du XXe siècle, ce tableau, et que beaucoup de gens savaient que je le possédais, je n'ai pas cessé d'avoir des propositions d'achat à laquelle j'ai résisté. Et puis, en l'an 2000, je crois, à peu près, le directeur de Christie's, qui s'occupait des tableaux, qui était Philippe Segalo à l'époque, est venu me voir, ton ami, en me disant, écoute, là, vraiment, on sait que tu as ce tableau, il faut absolument que tu acceptes de le vendre parce qu'on a quelqu'un qui est prêt à le payer très, 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 très cher. Bon. J'ai fini par céder, j'ai vendu ce tableau pour une somme effectivement très coquette, très rondelette, et sur le coup, j'étais content, mais le problème, c'est que depuis, des tableaux équivalents sont passés en vente et ont fait 10 fois le prix auquel j'ai vendu ce tableau. Alors, j'ai aujourd'hui une double peine. Premièrement, c'est la peine la plus grande, je n'ai plus ce tableau. Ça, c'est un manque considérable. Et deuxièmement, effectivement, je suis passé à côté d'une plus-value considérable.
Et dans la conclusion de votre livre, vous regrettez la commercialisation, le fait qu'il n'y ait plus de mouvement d'avant-garde, qu'il n'y ait plus de ludisme dans l'art, un effet Jeff Koons, comme ça, la marchandise, disons la collection Saatchi & Saatchi, j'ai vue à Londres, c'est ça l'aspect commercial.
Je me méfie beaucoup des jugements que je peux moi-même porter et qu'on porte en général sur ce qui se passait autrefois. L'idée, par exemple, « Ah, c'était tellement mieux autrefois, aujourd'hui, c'est plus ça, c'est plus la même chose, etc. »
c'était fabuleux.
C'est un petit côté un peu poilu de la guerre de 14, c'est une petite connotation.
On évite. On évite.
D'un côté politique que j'aime pas beaucoup.
Vous avez raison.
Et un peu réactionnaire, comme ça. Et c'est pas tellement ma sensibilité. Mais il faut dire et il faut reconnaître que l'art d'aujourd'hui a terriblement changé par rapport à ce qu'il était hier. C'est-à-dire que dans le domaine du XXe siècle, là, ce n'est pas un jugement de valeur, c'est une constatation. Dans l'art du XXe siècle, depuis la fin du XIXe, avec l'Olympia de Manet, on avait été habitué à ce que les avant-gardes se succèdent les unes après les autres et remettent en question les langages picturaux qui les avaient précédés. Bon. Dans toute l'histoire de l'art, des périodes de modernité ont alterné avec des périodes de classicisme. Donc ce n'était pas une nouveauté fondamentale, mais c'était comme ça. Et moi, j'ai vécu cette période qui était très attractive, très intéressante et intellectuellement très riche. Et puis aujourd'hui, les choses ont beaucoup changé. Alors pourquoi elles ont changé? Probablement pour des questions d'ordre technologique. Aujourd'hui, avec un clic d'ordinateur, vous traversez le monde, vous allez à l'autre bout de la planète et vous entrez dans une autre culture. Et finalement, tout ça contribue au fait que on ne peut plus faire ce qu'on faisait autrefois, c'est-à-dire se réunir, par exemple, dans un pays, à Paris, dans une ville, dans un café, et créer avec quelques intellectuels un mouvement d'avant-garde. Le cubisme, le surréalisme, le lettrisme, comme ça se faisait, comme ça, dans les bistrots, etc. Bon, non, aujourd'hui, c'est plus du tout la même chose. Donc, chaque artiste y va un petit peu de sa petite idée. Il n'y a plus de mouvement pictural constituer à proprement parler. Alors il y a une sorte d'atomisation de la création. On a l'impression que les choses partent un petit peu dans tous les sens et c'est très très difficile d'appréhender véritablement ce qui se passe. Alors à coup sûr, il se passe des choses importantes, mais moi j'ai du mal à les percevoir. Donc je vis ça plutôt comme une faiblesse, plutôt que comme un regret. Bon, j'ai un peu un regret de ne plus pouvoir vivre ce que j'ai vécu. Mais enfin, j'ai eu la chance de le vivre, c'était formidable.
Ça dépasse vraisemblablement le champ de l'art, mais quand on allait à Documenta de Cassel, par exemple, on avait une impression d'ascétisme quand même.
Alors, quand on allait à la Documenta de Cassel, qui était une grande manifestation artistique qui avait lieu tous les 5 ans, qui était l'occasion de faire le point sur tout ce qui se passait durant une période de 5 ans dans le domaine de l'art, on avait une idée assez précise de l'évolution de la création. Aujourd'hui, quand on va à la Biennale de Venise, c'est très très difficile de se faire une idée précise de ce qui se passe, une sensibilité dominante. Il n'y a plus tout ça.
Vous dites vous-même, la société du spectacle a gagné.
Oui.
Par
chaos,
l'adversaire a gagné totalement.
Guy Debord avait prévu les choses, la société du spectacle, dans son livre admirable. On est aujourd'hui pleinement dans la société du spectacle.
Et donc, nous sommes sur Allegre FM 93.1, dans la vie est un roman. Et donc, qu'est-ce que vous possédez et qu'est-ce que vous avez possédé comme œuvre d'art ? Donc, vous avez tout vendu, on est d'accord. Mais vous, qu'est-ce que vous avez vraiment eu en main ?
Alors, j'ai vendu pour pouvoir recommencer. Et j'ai pensé qu'il était important d'être capable de se remettre en question lorsque l'on est collectionneur. Donc, j'ai finalement brûlé ce que j'ai adoré, pour pouvoir une nouvelle fois m'enthousiasmer et reconstituer une collection. Et depuis que j'ai vendu ma collection, ça devait être en 2003, 2004, quelque chose comme
j'ai
ça.
2004, je crois que c'est.
Oui, 2004. J'ai reconstitué une collection qui me donne aujourd'hui beaucoup, beaucoup de satisfaction.
Mais donnez-nous des noms, donnez-nous à voir cette collection. Comment elle est exposée ? Elle est où ? Elle est dans un coffre à la banque ?
Non, elle n'est pas dans un coffre. Je vis avec ma collection. C'est un grand plaisir. Elle m'apporte d'immenses satisfactions, puisque finalement, une œuvre d'art, c'est le seul investissement qui, chaque matin, au moment où vous allez pousser la porte de votre salon, va vous payer, par le plaisir qu'elle vous procure, l'intérêt du capital investi, si j'ose dire. Ça, c'est un rare privilège. C'est mieux que de l'or, vous comprenez, qu'on met à la banque. Là, vous jouissez véritablement. Tous les jours, une œuvre vous appelle, elle vous fait un petit clin d'œil et elle vous invite à une méditation, à une ouverture sur le monde, sur l'esprit, sur l'imaginaire. Alors bon, j'ai une grande passion pour le surréalisme. Finalement, le surréalisme est le mouvement qui nourrit le mieux mes désirs intellectuels. Donc la collection que j'ai remontée depuis une vingtaine d'années tourne principalement autour du surréalisme. Et j'ai fait l'acquisition récemment d'un chef-d'œuvre du surréalisme, un tableau que je connaissais depuis très très longtemps, qui reproduit dans Les larmes d'Eros, le fameux livre de Georges Bataille, qui est Mon tombeau par Clovis Trouille. C'est un tableau d'une insolence absolument extraordinaire, ça se passe dans un cimetière, et tout est absolument inversé, tout est renversé, tout est bouleversé. C'est-à-dire que les cercueils sont ouverts, c'est un petit peu comme dans La nuit des morts vivants, les morts sortent des cercueils, et c'est la rencontre d'Eros et de Thanatos, parce que finalement, tous ces ressuscités vont être invités à flirter avec de merveilleuses créatures.
Oui, vous aimez bien aussi l'érotisme hein, dans les
oui.
représentations.
Oui.
La mort et le sexe, hein,
bah, écoutez,
une faucheuse comme ça, cette vision de...
Le rapport d'Eros et de Thanatos, c'est quelque chose qui me semble fondamentalement importante en art. Depuis l'Antiquité, on trouve la présence, la rencontre d'Eros et de Thanatos sur les œuvres les plus importantes, finalement, qu'on peut aller voir dans tous les grands musées.
Il y avait une exposition Clovis Trouille à la Porte Dorée.
Oui, il y avait une très belle exposition Clovis Trouille au musée de la Porte Dorée.
Ouais.
C'est probablement le plus insolent de tous les artistes du mouvement surréaliste, du XXe siècle.
Et il y a Pierre Molinier dans les gens... Parce que je connais le... il s'appelle Jean-Pierre Bouixou, qui était un Bordelais, qui était le groupie numéro un à Bordeaux de Pierre Molinier.
Alors Pierre Molinier, c'est aussi un artiste très, très, très insolent. J'ai eu la chance et le plaisir de le connaître, tout comme Clovis Trouille d'ailleurs. Et alors je lui avais rendu visite à Bordeaux, et c'était tout à fait étonnant, parce que il était un grand obsédé sexuel et il avait une angoisse de mort qui l'habitait, qui était terrible. Finalement, son amour de l'érotisme, la transgression sexuelle, était pour lui un moyen de lutter, d'affirmer sa présence au monde et de lutter contre son angoisse de mort.
Ça me revient, mais j'ai oublié son nom, mais il y avait un artiste d'art brut, un ancien instituteur très spécial à Lausanne, et on l'avait interviewé, et il nous a fait rentrer dans une pièce pour nous montrer son autoportrait, et c'était un phallus dans un costume.
Ah oui.
Mais genre 2 mètres sur 2 mètres.
Ah oui.
Et il restait impassible, donc on hochait la tête, et tout ça, c'est ce genre de choses.
Ah, ce sont souvent des personnages tout à fait singuliers.
Ah oui, lui, il dessinait sur l'emballage des paquets de cigarettes dorés ou argentés, là, dans les trains. Il avait un abonnement pour prendre le train, il allait dans le train, et il tenait des propos un peu équivoques aux dames. En dessinant sur son œuvre, elle est en papier doré ou papier argenté.
Ah oui, oui, je vois. Je n'ai pas le nom en tête, mais je vois très
et
bien l'artiste.
La seule chose grande qu'il avait fait, c'était son autoportrait phallus dans un costume trois pièces.
Je vois très bien, effectivement.
C'est très joli, cette collection d'arbres, c'est une pure merveille.
Magnifique.
C'est splendide. Et donc, oui, vous avez dans votre rêve, il y a le rétable d'Izenham, il y a l'entrée du Christ à Bruxelles d'Ansort, il y a l'île des morts d'Arnaud Böcklin.
Ça, ce sont vraiment des chefs-d'œuvre.
On est à l'opéra, en fait. Il y a quelque chose, il y a une mise en scène. Il y a
Un côté wagnérien.
Vous parlez de Mahler, la deuxième symphonie de Mahler.
Et j'avais dit d'ailleurs à la fin que j'aurais bien aimé que la scénographie soit confiée à Murnau. Le grand cinéaste.
Ah oui, c'est très bien. Mais c'est le... On a. Qu'est-ce que je pouvais dire? Oui, plutôt. Il n'y a pas d'abstrait, oui. Donc, ah oui, il y a un abstrait, c'est le seul, mais je pense que vous y voyez un contenu. C'est les otages de Fautrier.
Oui. Les otages de Fautrier, c'est vraiment un sommet de l'art. Et j'ai donné aussi une place dans ce musée imaginaire à une création que les gens connaissent peu, les peintures de Georges Sand. Tout le monde connaît Georges Sand.
C'est dans le livre, ça m'a échappé alors.
Tout le monde connaît Georges Sand, écrivain, mais peu de gens savent qu'elle a été une aquarelliste de très très grand talent qui a inventé la technique du décollage cher à Oscar Dominguez et cher à Max Ernst. Donc elle a été un grand, grand précurseur.
Magnifique, c'est une bonne trouvaille. Et donc vous aimez aussi beaucoup Balthus?
Oui, j'ai une passion pour Balthus, pour les raisons qu'on a expliquées tout à l'heure. On retrouve chez Balthus ce rapport entre Eros et Thanatos qui est toujours très, très, très présent. Il faut aller au Centre Pompidou pour voir cet extraordinaire portrait de Balthus qui représente une jeune fille avec des yeux blancs. Je ne sais pas si vous voyez ce tableau.
Non,
c'est tout à fait extraordinaire. Ça mérite le détour.
ce qui était formidable, c'était le fond breton, quand ils ont exposé, quand la fille de Breton, ouais. Quand c'était exposé à Beaubourg, là.
Oui, ça, c'était vraiment
à propos
formidable.
De collection. La collection de Breton sur un mur à Beaubourg, ouais, ça, ouais, c'était ouais, fabuleux. Ouais. Hein.
Le mur a été reconstitué,
oui.
Une partie de l'appartement.
Avec les objets exotiques, ça fonctionnait très très bien. Les Indiens Hopi, les peintures.
Oui, bien sûr. J'avais eu le plaisir d'aller chez André Breton, rue Fontaine, d'y être reçu par sa veuve Elisa, et j'avais vu toute cette collection qui était présentée dans cet appartement, qui était un petit appartement, donc tout était entassé. C'était pas très bien présenté, mais on sentait que ça correspondait à un besoin. Elisa faisait remarquer à l'époque, lorsqu'elle faisait venir quelques visiteurs, très peu d'ailleurs, triés sur le volet, j'ai eu la chance de faire partie de cela, elle faisait remarquer que rien n'avait changé depuis la mort de Breton. Elle montrait le bureau d'André Breton, sur lequel il y avait son fameux Ouli, vous savez, ce personnage d'un océanien, qui est un personnage mythique, qui est une sorte de divinité tutélaire à l'intérieur de la maison de Breton, qui maintenant est au Louvre d'ailleurs. Et elle faisait remarquer que rien n'avait bougé depuis la mort de Breton, et elle disait, vous voyez, son stylo est resté à l'endroit même où il l'avait posé.
Ça, c'est le culte. Et donc, vous avez aussi fréquenté les gens, ceux qui écrivent, ceux qui amènent du concept, les plus atypiques, genre Jean-Jacques Lebel, et puis même Michel Giroux, donc
oui,
Fluxus.
Oui, ça, ce sont des grands personnages. Révolté notamment. Exactement. Pour Jean-Jacques Lebel.
Ça marche aussi pour Giroud.
J'ai beaucoup d'admiration pour l'un et pour l'autre. D'une façon générale, la pensée révoltée en art est une chose qui m'intéresse beaucoup. Et lorsque, quittant le métier de galeriste, j'endosse la tunique d'écrivain, puisque j'ai écrit une quinzaine de livres et quelques pièces de théâtre, j'écris toujours. Ma plume est attirée par l'histoire des artistes révoltés. Donc j'ai écrit un livre sur Antonin Artaud, un livre sur René Crevel, un livre sur Alfred Jarry, un livre sur Raymond Roussel. Et tout ça, ce sont des grands révoltés.
Et vous avez aussi une activité d'homme de théâtre ?
De théâtre ?
Oui.
Alors effectivement, ça c'est en tant que dramaturge, j'ai écrit 3 pièces.
Mais comment vous faites ? Vous trouvez où le temps ?
Vous savez, quand on a le besoin de dire des choses, on finit par trouver le temps de les faire. Il n'y a pas de difficulté là-dessus. Et mes pièces ont été montées au Festival d'Avignon et dans d'autres théâtres. Il arrive qu'elles soient données en tournée.
Quels sont les sujets des pièces ? Quelle est l'ambiance ? Quel est le feeling ?
Sur la vie d'Artaud, qui s'appelle Artaud Passion.
Ouais, on est dedans. Ouais.
J'ai écrit une autre pièce sur Séraphine de Senlis, qui s'appelle Ma Séraphine. Et j'ai écrit une autre pièce qui met en cause la personnalité névrotique de Raymond Roussel, qui est une adaptation d'un de mes romans qui s'appelle Le Miroir à son, qui est probablement d'ailleurs le livre le plus autobiographique que j'ai écrit, car en parlant de Raymond Roussel, j'ai trouvé le moyen, finalement, indirectement, de parler de moi.
Ça veut dire quoi ? Quel aspect de psychologique ?
Écoutez,
ou...
c'est...
Je n'ai pas lu, moi, le livre. Qu'est-ce qu'il y a dans, dans la pièce ?
Alors, c'est l'histoire d'une psychanalyse à laquelle on assiste en temps réel. C'est l'histoire d'un professeur de philosophie qui sent que les choses ne vont pas très 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 bien dans sa vie, dans sa tête, qui a une forme d'instabilité et qui entame une analyse qui ne se passe pas très bien. Et finalement, il est un jour visité en rêve. par la présence de Raymond Roussel. Et il comprend que ce rêve est une invitation à écrire un livre sur la vie de Raymond Roussel. Donc il va écrire ce livre, et le livre qu'il écrit se retrouve à l'intérieur de mon livre, sous la forme finalement de chapitres qu'il apporte chaque semaine à son psychanalyste, sans savoir d'ailleurs si le psychanalyste les lit ou s'il ne les lit pas, ce qui induit une très très grande frustration, bien évidemment.
Et quel est le diagnostic du psychanalyste ?
Alors, vous savez, le rôle du psychanalyste n'est pas de donner un diagnostic. Le rôle du psychanalyste est d'inviter les gens, les patients, à libérer la parole pour essayer d'y trouver leur propre vérité. Et la vérité qu'a trouvée dans ce livre, finalement, notre patient, qui est en train de vivre une psychanalyse, c'est que finalement, il était perturbé par un secret de famille, voilà, qui est dévoilé à la fin du livre.
L'enfant caché,
Oui, c'est un peu ça, c'est un peu ça. Donc
Le bâtard, je ne sais pas, enfin, un truc de ce genre-là.
Alors, ce livre s'appelle, c'est un roman qui s'appelle « Le miroir à son », qui a été édité aux éditions Léo Cher. Il y a eu une adaptation, donc dramatique, une pièce donc, de théâtre, qui s'appelle « Le miroir à son », qui a été créée au Festival d'Avignon il y a 2 ans, au Théâtre de la Syrie.
Léo Cher, les éditions Canoë aussi, tout ça fait penser à... Ah, c'est le générique de fin. Merci, nous étions sur Allegre FM 93.1 dans La vie est un roman avec Patrice Trigano, La promesse de l'art aux éditions du Canoë. Merci, à la semaine prochaine, et merci à Bruno, à Didier Robert. Merci. Didier Robert. Merci.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.